Eh bien bonjour, bonjour Loïc, merci d'ouvrir les ondes de Radio Dio au Grémos, comme c'est fait chaque fois, chaque mois, le troisième jeudi de chaque mois. J'ai perdu l'habitude parce qu'effectivement, nous avons été un peu bouleversés par cette épidémie de Covid. Et c'est d'ailleurs ce qui va nous amener à revenir sur une exposition des archives municipales consacrée à Saint-Roch, un quartier en chantier. Et pour cela, nous avons invité aujourd'hui donc deux maîtresses d'œuvre, Catherine Alisson, je ne dis pas en alphabétique, qui s'y présente, et Juliette Morin. Donc Catherine Alisson, tu peux nous rappeler ton rôle à l'intérieur des archives ?
Je suis chargée des projets culturels et pour cette exposition, j'ai fait le travail de recherche et la collecte d'entretien.
Rappelle quand même que tu as été longtemps au musée de la mine aussi, tu as une connaissance du tissu ouvrier et industriel de Saint-Étienne.
C'est vrai.
Et donc avec toi, venue Juliette Morin, qui est presque la Benjamine, la nouvelle dans les archives, dans la structure des archives municipales. Pas tout à fait, mais presque.
Bonjour. Oui, donc Juliette Morin, responsable de l'action culturelle et de la médiation aux archives municipales. Donc effectivement, j'ai rejoint l'équipe en juillet 2019, alors que l'exposition était en pleine préparation.
Alors cette exposition, donc, elle a été annoncée, présentée il y a exactement 11 mois, le 17 octobre 2019. J'ai regardé les archives du Grémos sur ces mêmes ondes par Catherine Gauthier et Cyril Longin, qui ont un peu expliqué le travail qui était fait en amont, notamment par une association sur laquelle on reviendra, à savoir Coproc, qui intervient sur le quartier dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine. Alors on sait que le fonctionnement de la radio a été bouleversé par le Covid, mais la mise à disposition de l'exposition a été aussi, puisqu'elle a ouvert, je crois, vers le 18 novembre, et que trois mois plus tard, elle était fermée à cause du Covid. Elle vient de réouvrir.
On l'a réouvert le 1er septembre. Initialement, elle aurait dû fermer au mois de juin. Voilà. Et on l'a prolongée d'un mois. Donc, elle sera là jusqu'au 30 septembre.
Voilà. Et quand on a envisagé de faire cette seconde émission, c'était pour faire un peu un bilan de cette exposition et aussi pour annoncer les Journées du patrimoine. Or, on vient d'apprendre
qui malheureusement ont été annulés.
Que les Journées du patrimoine ont été annulées, ce qui est bien dommage. Donc, si vous voulez aller voir cette exposition, il faut vous précipiter dans les deux semaines qui viennent.
Oui.
C'est ça ? Alors, on va essayer de revenir sur l'expo, mais peut-être on va commencer par le quartier lui-même, le quartier Saint-Roch. Alors, c'est pas facile à la radio, mais on va essayer de faire une description de ce quartier, des limites. Comment l'avez-vous envisagé ?
Alors, pour ce qui concerne justement la façon d'approcher le quartier, en fait, se sont posées plusieurs questions. Effectivement, il y a la définition administrative du quartier, qui est celle que l'on trouve sur les cartographies de la ville, qui finalement permet à chacun de s'identifier de façon simple. Il y a par exemple également le découpage scolaire, des cartes scolaires qui ne recoupent pas précisément le découpage administratif. Il y a le périmètre qui a été choisi par le collectif Coproc pour intervenir depuis 2016, qui va un peu au-delà de ces limites administratives. Et puis enfin, de fil en aiguille, nous avons découvert ce périmètre vécu, l'espace vécu par les habitants, l'espace perçu, celui que les habitants nous ont décrit et dont on a pu constater aussi qu'il évolue avec l'âge, avec les générations, avec les habitudes du quotidien. Donc l'approche qu'on a choisie, elle a été de croiser en fait ces différents périmètres et de pas s'interdire d'aller un peu au-delà dans les rues, parce qu'on a constaté que à travers nos recherches historiques, il y avait aussi un territoire des savoir-faire dans ce quartier et qui allait un peu au-delà des limites de certaines rues.
D'accord. Et moi, je vous propose que justement on en discute. Passe un petit moment à en discuter parce que d'abord on va le délimiter par des rues. C'est peut-être la meilleure solution. Comment vous procéderiez?
Alors peut-être Catherine, tu as les noms des rues en tête.
On délimite un quadrilatère grosso modo.
Alors le quadrilatère du périmètre administratif.
Voilà.
Voilà. Qui au nord est marqué par la rue Badouillère, au sud...
Ça c'est très clair, la rue Badouillère, c'est vraiment un axe bien...
qui
tranche. Voilà.
Au sud, par la rue Alexandre Pourcel.
Oui.
Ensuite, à l'est, on a...
Courfauriel.
Courfauriel, sur un tout petit tronçon. En fait, c'est surtout le boulevard Val-Benoît qui fait la frontière.
Et la rue Mulatière. Donc.
Et la rue Mulatière.
D'accord.
Une petite portion. Après, à l'ouest, ça se complique parce qu'on a plusieurs rues. La portion la plus importante étant peut-être la rue Basse des Rives.
D'accord.
Voilà, avec la rue, quand on redescend vers le nord, la rue Bertholon, Cuvier.
Donc, en fait, il a été question tout à l'heure de la façon dont les gens appréhendaient le quartier. Je ne suis pas sûr que les gens qui habitent vers la rue Alexandre Pourcel pensent qu'ils habitent à Saint-Roch. Le centre, finalement, c'est bien la place.
Tout à fait.
C'est clair. Hein. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'origine, l'historique de cette place, de cette... comment le quartier a grandi, comment il s'est... Parce qu'on est quasiment dans une banlieue au début. Si on remonte au début du 19e siècle,
on est dans un faubourg.
On est entre Saint-Étienne et Val-Benoît, d'ailleurs. C'est intégré à Saint-Étienne par les décrets de 1856 qui vont annexer les communes périphériques.
C'est ça.
On est bien d'accord. Alors, est-ce que la place, c'est un repère sûr, parce qu'il y a l'église. Donc l'église, lieu de rassemblement, lieu d'événement, etc. Et puis il y a les axes. Alors notamment au centre, la fameuse rue Antoine Durafour.
Oui, tout à fait.
C'est quand même...
Qui donne l'axe nord-sud.
C'est la colonne vertébrale. Alors est-ce qu'on peut parler d'Antoine Durafour ?
Alors avant de parler d'Antoine Durafour, je voudrais revenir sur la place.
Oui,
parce que
la place.
Effectivement, assez tôt, dans les années 1820, aux archives, on a des pétitions d'habitants qui réclament la place. Et ça fait partie de le surgissement, cette notion de quartier. Ces habitants, ils se revendiquent comme étant du quartier Saint-Roch. Et pour en revenir à ce rôle, le rôle de sa place, on parlait du quartier en disant qu'elle avait cette place centrale, mais c'est aussi peut-être dans ses premiers courriers, dans ses premières demandes, qu'il y a cette notion de quartier qui apparaît avec la demande et la constitution de la place, puis ensuite de l'église.
Et là, c'est quelle date ?
1822.
Et on sait qui sont les pétitionnaires.
Oui, on a les signataires. Après, je ne les ai pas en tête, là, mais oui.
Mais quel métier ? Quel nom ?
Des passementiers.
Donc, on est dans un quartier qui s'identifie à la passementerie, même si la passementerie, elle est plutôt installée sur les pentes de la colline...
Oui,
de Val-Benoît.
C'est vrai, mais quand on regarde, on s'est servi pour localiser les ateliers de passementiers, on s'est servi d'un annuaire qui fait partie du fonds du musée d'art et d'industrie, qui recense donc tous les artisans et tisseurs. Et on se rend compte que, bien sûr, il y en a beaucoup plus le long du boulevard Val-Benoît, et aussi Ruben Jean-Baptiste David, qui n'est plus dans le quartier, mais du coup,
ça se discute.
Voilà. Et on en a beaucoup aussi, rue Antoine Durafour, alors plus en allant vers le sud que vers la place Saint-Roch, mais malgré tout, sur la place Saint-Roch, il y avait des ateliers. Mmh. Le bar de l'Aube était occupé autrefois par des ateliers de passementiers. Là où il y a l'annexe du centre social à Vivarez, c'est une maison qui abritait également des ateliers de passementiers. Donc on se rend compte qu'en fait, il y en avait... Mmh. Éparpillé aussi dans la partie nord.
Basse. La partie basse, et parce que nord et sud, d'accord, mais aussi partie basse et haute.
Tout à fait.
Parce que les passementiers recherchaient quand même les collines pour la lumière et pour échapper un peu aux fumées aussi.
C'est ça.
Alors, des passementiers, donc, et on dit généralement que... On l'entend dire moins en moins parce que ça se perd, mais que le Saint-Roch, c'est un quartier... de petites métallurgies, armureries, cycles. Alors, à quel moment ça se dessine, ça ?
Alors, la place de l'armurerie, elle est ancienne aussi. Elle n'est pas localisée sur le même périmètre.
Non.
Elle est plutôt à proximité de la place Chavanel, puisque historiquement, il y a l'implantation de la
manufacture
d'armes. Donc c'est surtout autour de ce secteur, à cause de la présence de la manufacture, et encore plus à cause de l'implantation du banc d'épreuve qui permettait...
Rue Tissot.
Donc, voilà. Qui est aussi à l'extérieur du périmètre administratif du quartier et qui dessine les limites du quartier de l'armurerie.
Plus vaste.
Oui,
donc et plus vaste. Et ça, c'est la manufacture, elle est encore au 19e siècle, au début du 19e siècle. Et donc, c'est dans la foulée de cette activité d'armurerie que vient de s'installer, que va se greffer à la fin du 19e siècle la métallurgie liée au cycle.
Oui, absolument. Hein?
Oui, il y a un effet de saisonnalité.
Oui.
Notamment entre les activités les tâches liées à la fabrication des armes et celles liées à la fabrication des cycles. Du coup, les deux artisanats se complètent en termes de temporalité dans une année. Effectivement, il y a progressivement, on voit apparaître, alors notamment sur les courriers à en tête que nous avons également empruntés auprès du MAI, on voit apparaître manufacture d'armes et de cycles. Donc les manufacteurs d'armes, en fait, créent une spécialité autour du cycle de plus en plus.
Oui, et donc il y a évidemment le fameux exemple de la manufacture d'armes et de cycles de Saint-Étienne qui va s'installer sur le Cofforiel et qui fait travailler en sous-traitance.
Absolument.
C'est ça ?
Oui. En fait, dans le quartier Saint-Roch, on n'a pas de grosses entreprises. Mmh.
Ce sont des petits ateliers.
Ce sont des petits ateliers. Et souvent, ils travaillent pour Manufrance.
Alors, ça va nous amener un peu à discuter du bâti et tout ça. Mais avant, justement, j'ai évoqué tout à l'heure la figure d'Antoine Durafour. Je voudrais rappeler que donc Antoine Durafour a donné son nom à ce grand axe parallèle à la Grand Rue, mais qui traverse le quartier, qui est presque une colonne vertébrale du quartier. Et Antoine Durafour a été, donc, Antoine Durafour, né en 1870, mort en 1932, est connu pour avoir été maire de Saint-Étienne. En fait, il a été très peu de temps maire, 2 ans, de 1930 à 32. Il est mort en fonction. Par contre, c'était un avocat, un militant du Parti radical. Et il s'est appuyé pour se faire élire. Donc, il est élu député dans les années 1908, 1912, 1914, il s'appuie sur ce petit artisanat qui est un artisanat très républicain, très, on peut dire, anticlérical. Hein. Les armuriers sont souvent anticléricaux, peut-être pas leurs femmes, mais eux le sont. Et il est député de cette circonscription qu'on appelle les deux Suds, d'ailleurs, hein, puisqu'il y a le Sud-Est et le Sud-Ouest. Depuis 1908 jusqu'à sa mort en 1932. C'est un homme qui est considéré quand même de gauche. Il va faire partie de certains gouvernements dans les années 1920 et qui a été aussi l'avocat. On l'a peut-être un peu oublié, mais qu'Antoine Durafour a été l'avocat des veuves de mineurs. Parce qu'il y avait des mineurs aussi dans le quartier. Il y avait des puits de mine pas très loin sur la colline de Villebeuf, et il s'est battu pour que les veuves obtiennent des pensions. Alors, il a donné son nom à sa rue, et j'aurais presque envie d'ajouter que, est-ce qu'on est encore dans le quartier, mais presque à la limite, la rue Basse des Rives, tu as dit tout à l'heure, Catherine, donc le long de la rue Basse des Rives, il y a la bibliothèque universitaire, et on a donné récemment à l'espace devant la bibliothèque universitaire le nom de Michel Durafour, qui était maire lui plus longtemps, et qui est le fils d'Antoine Durafour. Alors, on va revenir au bâti, parce qu'il y a quand même quelque chose de très particulier et dans les quartiers stéphanois, mais alors à Saint-Roch en particulier, sur ces bâtis, ces maisons construites avec un matériau bien spécifique, avec une forme bien spécifique, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Est-ce que c'était abordé dans l'exposition ?
On l'aborde effectivement par rapport au lien, en fait, précisément entre la fonction de ces immeubles, ces petits immeubles, Et du coup, la façon dont ils ont été beaucoup conservés, finalement, ils sont encore très, très visibles dans la trame urbaine actuelle. Oui. Et donc, voilà, on fait le lien entre ce qui se passait voilà, dans ces immeubles, donc, qu'il s'agisse de l'activité des passementiers, qui sont donc dans les immeubles en hauteur, et effectivement, comme vous l'évoquiez, avec la nécessité de faire rentrer la lumière dans les immeubles. Donc, on les repère à ces grandes façades et ces grandes fenêtres. Et ce sont des façades assez peu décorées, je me trompe. Et pour ce qui est du bâti relatif à l'activité des armuriers, là, il faut pousser les portes, il faut rentrer dans les cours intérieures. Voilà. Et ça a été aussi un travail d'enquête aussi dans le quartier pour aller à la rencontre de ces cours intérieurs et puis aussi des derniers armuriers en activité qui sont peu nombreux, mais voilà, qui conservent aussi encore ce savoir-faire et le transmettent.
Et donc cette activité, elle donne au quartier un aspect un peu village dont on peut peut-être retrouver une trace dans la chanson qu'interprète Roland Roche, chanson de Philippe Rambaud, si je me souviens bien. Je n'ai plus le nom exact.
Voilà, il s'agit de Mon village à la ville, Charles Rambaud et Serge Valla. Voilà.
Mon village à la ville ressemblait à une île peuplée d'enfants de chats, de chevaux de lilas. Comme dans les chansons, c'était à la fontaine que filles et garçons cherchaient la belle aubaine. Les quartiers de la ville venaient de leur village en portant en exil un nom de paysage. Le soleil et la rivière créent de roc et mon Dieu, côte chaude et bel air, le marais et beau lieu. Les bruits au fil des rues racontaient les métiers, l'heure tombait des nues au signal des clochers. On y mangeait sa soupe assis sur le trottoir quand revenait la troupe des martines du soir. Au long des semaines, dans les métiers battants, battait un cœur géant le fléau de la peine. Quand on posait le manche, les familles en fleurs, en habit du dimanche, mettaient l'air en couleur. On allait à l'église avec l'âme bien mise, on allait au jardin refaire les gestes anciens. On allait à la fête tourner au bal musette. On allait au bistrot noyer les rêves en trop. Les Indiens dans leur jeu de guerre disputaient les tiraboules obscures aux couples d'amoureux. Le furon recevait l'affluent des teintures, et quand il était bleu, ce n'était pas d'azur. L'herbe entre les pavés faisait croire à l'été.
Alors cette chanson de Charles Rambaud, interprétée par Roland Roche, évoque, on vient de l'entendre, le furon. Voilà une limite aussi du quartier, puisque le furon, il passe le long de la rue Basse des Rives, hein, n'est-ce pas? Et donc ce quartier est un village animé par des gens qui travaillent beaucoup, qui travaillent, je dirais, de l'aube au crépuscule, et qui se rencontrent sur la place, dans les bistrots, etc. On peut évoquer ça, Catherine ?
Oui, effectivement, c'est un quartier d'artisans, oui. Avant tout.
Pas d'ouvriers, finalement, hein. C'est plutôt des artisans et des apprentis.
Oui. Oui. Et donc il y a des bruits, ça génère des bruits,
ça
génère beaucoup de va-et-vient parce que ce sont ces artisans, notamment pour les armuriers et aussi pour les fabricants de cycles, chacun fabrique une pièce. Donc ça va passer de main en main et ça va générer beaucoup de flux dans les rues. Et les personnes que l'on a interrogées, qui nous ont raconté leur vie d'artisan, nous disaient que parfois le bistrot était le lieu où on allait soit rencontrer le client, soit rencontrer la personne qui allait prendre le relais.
Conclure les affaires.
Oui.
Voilà. Et donc, on a un témoignage qui a déjà été diffusé dans la précédente émission, mais qu'on va reprendre parce qu'il est intéressant, de cette Madame Bessette, là, c'est ça ?
Alors, Madame Bessette, c'est une habitante du quartier Saint-Roch. Elle s'y installe dans les années 90.
Ah oui, d'accord.
Donc, c'est une habitante
tardive.
Tardive. Ouais. C'est un témoignage qui est intéressant parce que il montre aussi comment la notion de quartier, tout à l'heure on a démarré l'émission en parlant de périmètre, et il montre comment en fonction de ses occupations, en fonction de l'âge de ses enfants, la découverte ou la fréquentation du quartier peut évoluer.
Il y a un ressenti qui évolue.
Voilà.
On va écouter Madame Bessette.
Entretien numéro 9, Madame Bessette, ancienne habitante du quartier.
Eh bien d'abord, ce quartier, je suis arrivée dans ce quartier quand j'étais enceinte de 7 mois, de ma fille aînée, en mars 93. Et je quittais le quartier de Tardy, un quartier où j'avais vécu plus de 7 ans, où j'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de moments agréables, mais je le trouvais trop éloigné pour ma future vie de mère de famille. Et quand j'ai découvert ce quartier, il correspondait au moins à mes objectifs et à mes projets. C'était beaucoup de commerce, avec la place Saint-Roch où ça faisait petit village, les commerçants qui étaient fort sympathiques, et puis une facilité de communication avec les habitants. Effectivement, quand mes enfants ont grandi, l'appropriation du quartier a évolué en fonction des besoins de la famille. C'est-à-dire quand elles étaient toutes petites, c'était un exploit d'aller jusqu'à la place Saint-Roch, aller au marché. Et quand elles étaient plus grandes, on s'orientait sur d'autres marchés parce qu'on y allait à pied, on avait d'autres centres d'intérêt. On utilisait tel et tel parcours pour aller à l'école maternelle, après tel ou autre parcours. Et à chaque fois, c'était des découvertes, de nouveaux habitants, de nouveaux commerces. Et ça a toujours été très agréable, parce que c'était un village où, comme les habitants, ça faisait très longtemps qu'ils étaient là, on avait tous nos repères et on se connaissait tous au moins de vue. Et on pouvait tous se saluer du regard. Donc, il y avait un confort de petit village. Alors, l'Opéra Théâtre, c'était leur deuxième maison. Le cinéma Saint-François, on y allait à pied, tout le temps. Le Méliès, avant qu'il déménage, on y allait toujours à pied, tout le temps. La médiathèque, Jo Goudbarge, quand elles étaient toutes petites, on y allait à pied. Sinon aussi, mais là, c'était plus les mercredis et les week-ends, on allait, ça, elles aimaient bien, pour elles, c'était l'aventure, elles étaient petites. Au parc de l'Opéra Théâtre, où il y avait le Pan. Alors ça, elles aimaient bien, parce qu'elles grimpaient, elles avaient l'impression de faire une grande randonnée. Mais on y allait à pied, et même la neige, l'hiver, quand on y allait, et c'était l'aventure. On s'équipait pour aller là-haut, C'était rigolo quand même. C'était... Parce que alors, quand l'opéra théâtre a brûlé, Carmel devait avoir, Gaëlle devait avoir 6-7 ans, ça a été son premier grand chagrin.
Ah ouais.
Ah, c'était un chagrin, mais... Parce que pour elle, c'était pas le bâtiment qui avait brûlé, ou en partie, c'était l'opéra au sens large du terme.
Ah oui.
C'était la scène, les musiciens, les costumes. Bon, toute la notion administrative, elle l'avait pas. Mais pour elle, c'était l'opéra au sens large du terme. Mais elle a eu un chagrin, mais un chagrin. Et il a fallu qu'on y aille et qu'on lui montre. Non, non, c'est qu'une petite partie de l'opéra théâtre et ça se reconstruit. Enfin bon. Et du coup, on a jamais été plus loin que l'opéra théâtre.
Alors, Madame Bessette, donc, née en, dans les années 1990, et non pas 1890, hein, c'est bien ça, et qui nous donne une vision du quartier. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit ces circulations, les limites, on n'a jamais été plus loin que ça. Et puis, voilà, ce souvenir d'un village avec une animation importante, trois jours par semaine, qui était le marché, gros marché, jusque... au début des années 2000, et aujourd'hui, il n'en reste plus rien. C'est-à-dire qu'on est dans un quartier qui a beaucoup évolué, qui s'est beaucoup transformé. Alors, avant de peut-être revenir sur cette question, on va réfléchir, vous allez nous parler de la façon dont vous avez élaboré l'exposition, le rôle que vous avez eu et le lien que vous avez eu avec Coproc et Catherine Gauthier dans cette exposition. Comment avez-vous travaillé, avec qui avez-vous travaillé, les institutionnels, les scientifiques, les témoins, quelle place vous avez accordé au témoignage, enfin, il y a quantité de choses que vous pouvez nous raconter maintenant.
Oui, tout à fait. Alors l'idée de l'exposition est finalement d'imaginer une exposition sur un quartier de Saint-Étienne, en l'occurrence le quartier Saint-Roch, elle a émergé, je pense, vers 2016-2017, à l'initiative du collectif Coproc par la voix de Catherine Gauthier, qui s'est rapprochée des archives municipales et de Cyril Longin, pour évoquer à la fois la période de requalification urbaine en cours, 2017-2020 actuellement, donc proposer en parallèle de ces gros travaux, proposer que les archives municipales s'emparent un peu de ce sujet pour proposer une exposition sur ce quartier qui permettrait à la fois d'exposer le quartier dans son histoire et dans ses caractéristiques, donc celle de l'artisanat qu'on a déjà beaucoup évoqué, mais aussi celle de son histoire urbaine et celle de l'histoire de ses habitants, hein, qu'on a également évoqué à travers ces témoignages dont on vient d'en entendre un extrait. Voilà, donc pour nous, archives municipales, l'idée était vraiment de partir du présent, du vécu actuel des habitants, et de les accompagner un petit peu dans la compréhension des transformations de leur quartier, et petit à petit remonter le fil des événements. Voilà un petit peu le cadrage général.
Donc on peut rappeler, d'après ce que vous venez de dire, que Coproc joue un rôle important, mais il y a en arrière-plan un projet municipal de requalification du quartier.
Voilà. En fait, le collectif Coproc...
C'est important de le dire pour les auditeurs qui ne connaissent pas le quartier. Ouais. Parce qu'il y en a peut-être quelques-uns quand même.
Et il a été, alors si je ne me trompe pas, le collectif Coproc a été formé en 2016 et mandaté par l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne, l'EPAS, pour accompagner en fait la concertation autour des évolutions urbaines du quartier. Tout à fait. Ouais. Donc ça s'inscrit effectivement dans ces travaux qui sont en cours.
Voilà. Et il y avait un vécu, vous avez parlé de vécu, il y avait un vécu quand même, je dirais presque une espèce de souffrance dans le quartier, comme quoi ce quartier était en train de s'appauvrir, de se désincarner un peu, c'est ça ? Avec les cafés qui ferment, le marché qui se dépérit, avec les... Ouais. Voilà, c'est ça.
Les commerces également. Alors c'est vrai que quand on a travaillé un peu sur l'histoire du quartier, par exemple la place Saint-Roch, qui vient d'être entièrement rénovée, Elle a connu une seule autre période de rénovation qui était entre 1983 et 1986. Grand moment là aussi de requalification. Mais en dehors de ce moment-là, qui était il y a une trentaine d'années, la place Saint-Roch n'avait jamais fait l'objet d'autres travaux d'envergure. Et finalement, elle est à l'image du reste du quartier et peut-être ce sentiment pour les habitants de se sentir un peu en dehors des grandes opérations.
Alors vous, en tant que membre de, enfin, salarié des archives municipales, votre rôle par rapport à COPROC, ça a consisté en quoi exactement? Vous avez participé avec eux ou bien ils vous ont fait des demandes précises de recherche?
Il y a eu on a travaillé ensemble sur les entretiens et sur la collecte des entretiens. Voilà, essentiellement. Sinon, la réalisation de l'exposition, elle s'est faite tout à fait de manière autonome. Enfin, voilà, on n'était pas membre du collectif et on n'était pas dans la même démarche.
Donc, c'est vraiment les entretiens, les témoignages qui sont le lien entre vous et COPROC. Alors, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu comment vous avez trouvé les gens, comment vous les avez choisis? Est-ce que ça a été facile, difficile de les faire venir
Alors, on s'est appuyé sur les structures sociales du quartier, notamment sur l'annexe du centre social, du centre de loisirs La Vivarès, donc qui est sur la place Saint-Roch. Et on a lancé un appel à témoignages. Parallèlement, COPROC avait lancé ses travaux et ses réunions participatives avec un certain nombre d'ateliers qui sollicitaient sur des thématiques la participation des habitants. Donc, ils avaient déjà aussi réussi à constituer un petit réseau. Donc, à la fois le petit réseau qui était amorcé par le travail de COPROC, du collectif, et puis avec l'aide du centre social de La Vivarès, on a réussi petit à petit à rencontrer une vingtaine de personnes.
Et ces réunions organisées par COPROC, vous étiez partie prenante ou bien vous avez juste...
Non, il nous est arrivé d'y participer, mais plus à titre, comment dire, d'observateur.
D'accord. Donc c'est de ces réunions qu'ont émergé les personnes que vous avez choisies pour témoigner, finalement.
En partie, voilà. En partie.
Et vous pouvez nous dire un petit peu, un profil ou bien une vingtaine de personnes, c'est déjà pas mal quand même.
Oui. Alors, il y avait la volonté de couvrir un peu, de trouver à la fois des personnes qui avaient vécu, soit qui habitaient encore, donc des habitants, des gens qui travaillaient, des gens, il y avait une diversité générationnelle aussi. Les gens qui avaient connu le quartier au moment où il était le plus vivant, où il y avait cette vie économique florissante, et puis ceux qui étaient peut-être arrivés plus récemment et qui avaient vu petit à petit les commerces partir, le marché être moins important. Voilà, on a essayé de pouvoir couvrir cette diversité. Alors, il y aurait
beaucoup de choses à dire.
Juste une petite chose, oui. Il y a eu cette collecte de témoignages, mais aussi ces gens nous ont beaucoup amené de documents, des photos.
Est-ce qu'il y a des exemples précis que vous pourriez évoquer?
Alors, dans l'exposition, il y a une partie qui est consacrée à la vie à Saint-Roch. Et dans cette thématique-là, il y a bien sûr les petits commerces. Et donc, il y a un panneau qui est une mosaïque de commerces. Et la plupart des photos qui sont présentées là sont des photos qui nous ont été amenées par les commerçants, mais il y a d'autres choses.
Et dans les témoignages, vous avez interrogé donc le dernier fabricant de cycles. On va peut-être pouvoir écouter ce qu'il
Monsieur
nous dit.
Monsieur Tagbalout.
Vous le présentez?
Alors, Monsieur Tagbalout, il est venu en France. Il est d'origine marocaine. Il est venu en France dans les années en 1968. Et il sera embauché par Ciseron et Mercier. Il va travailler chez Ciseron et Mercier, donc deux grosses entreprises de cycles, de fabrication de cycles. Et puis, quand Mercier commence à décliner, avec son frère, ils ont l'idée de monter leur propre petite entreprise. Ils s'installent rue du Rafour. Et jusqu'au printemps de cette année, c'était le dernier fabricant de cycles sur mesure.
On l'écoute.
Si je peux me permettre juste une petite précision pour les auditeurs et auditrices qui voudraient approfondir le sujet. Il y a de cela 2 ans, il me semble, Radio Dio, avec le lycée Foriel, avec des élèves du lycée Foriel, avait fait un projet d'émission justement sur tout ce processus où les élèves étaient sur le terrain, rencontraient des habitants et des acteurs et actrices de cette modification urbaine. Je vous renvoie vers le podcast du site internet, ça s'appelle Saint-Roch Update, et il y a un gros travail aussi qui va totalement dans la continuité très contemporaine, moins historique quand même, de ce qu'on est en train de discuter. Tout de suite l'interview donc de Monsieur Tagbalout.
Entretien numéro 5, Monsieur Tagbalout, fabricant de cycles, rue Antoine Durafour.
J'ai un copain qui travaille dans le cycle, c'est grâce à lui. Je travaille dans l'établissement Tiné. Quand j'ai fini la journée, je prends la rue Gutenberg, je passe devant le magasin de cycles, je trouve mon copain qui était dehors, en discutant et tout ça, le patron, donc le père Cézanne qui sort. Il dit à mon copain, ah, tu le connais? L'autre, il dit, bah oui. Il m'a dit, vous ne voulez pas travailler? Et j'ai dit, si, je travaille. Il m'a dit, mais si je vous donne un premier travail que vous gagnez là-bas, vous rentrez dans des cycles. Et je lui ai dit, mais pourquoi pas? Je lui ai dit, mais ce n'est pas mon métier, mais vous allez apprendre. C'est là, c'est parti. Donc j'ai travaillé 2 ans, à peu près 1 an et demi, 2 ans chez Cisson. Non, et puis après, en 1972, je suis rentré dans les cycles Mercier. Jusqu'en fin 83. Les cycles glaciers, ils étaient à la rivière, là, si vous voulez, donc quand on prend l'autoroute, à la sortie du tunnel. Donc, dans ces années-là, donc Mercier, ça commence à battre un peu de l'air, oui. Tout ça. C'est là où j'ai demandé de partir. Et mon frère, donc, lui, il travaillait chez Mécacycle, des braseurs, des brasses des cadres. Et c'est là où on a décidé de partir en 84 quand on s'est monté en notre compte, là. Et on a choisi le travail que les autres ne veulent pas faire, donc le travail sur mesure. À l'époque, il n'y avait pas de concurrence, là. Donc le travail, ça marchait bien, le vélo, ça marchait super bien et tout. Puis nous, on ne fait pas de publicité, donc publicité de bouche à oreille. Il y a une ou deux fois, donc le magasin du cycle, ils nous ont fait une de publicité. Donc il y a cette affaire, donc la tribune Le Progrès, que vous avez dit, donc pareil, ils nous ont fait une publicité. On avait...
Voilà. Monsieur Tagbalout, donc, qui témoigne finalement de l'extinction du cycle à Saint-Étienne. Alors, juste 2 mots que je me permets de dire. Le cycle s'est quasiment sabordé par certains patrons de la branche à la fin des années 50 en disant le cycle c'est fini, on aura que les ouvriers vont tous avoir des voitures. On voit où on en est aujourd'hui concernant le cycle. Bon, c'est un exemple assez caractéristiques de ratage industriel. Cela dit, donc, l'exposition, elle a été organisée, donc, de quelle manière vous avez...
Alors, oui, là-dessus, je vais pouvoir répondre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le lieu des archives municipales, il y a une grande partie de l'exposition qui se visite en extérieur, en plein air, autour du bâtiment. Une partie beaucoup plus réduite qui est dans le couloir d'accueil à côté de la salle de lecture des archives, qui est l'espace dans lequel on peut présenter des documents originaux. Donc pour des archives municipales, c'est quand même intéressant. Et enfin, il y a un dernier espace qui est également couvert et qui s'intègre dans le parcours extérieur. Voilà un petit peu pour situer.
Donc cela dit, on peut au moins avoir une partie en dépit des règles de confinement.
Actuellement, on peut la visiter en intégralité. Ouais. On l'a rouverte totalement au 1er septembre, y compris les espaces fermés, enfin les espaces couverts, pour lesquels on met à disposition tout le protocole nécessaire. Ouais. Voilà. Donc on a travaillé, alors d'abord pour la réalisation technique et l'aménagement de l'espace. On a travaillé avec une scénographe et une graphiste, Sandra Villette et Bérangère François, qui nous ont accompagnés vraiment dans la mise en forme de nos discours. Elles ont donc travaillé un peu sur la proposition un peu d'une promenade dans le quartier, en évoquant les façades des rues découpées, en reprenant un peu certains lieux emblématiques et qu'on arrive à reconnaître. Sur trois grands verbes, on va dire. Le premier étant fabriquer, donc qui renvoie là vraiment, on en a beaucoup parlé, hein, à la à l'identité, à, à l'identité artisanale du quartier, et donc ces trois corps de métier que sont la passementerie, l'armurerie et le cycle, avec également un lien avec les savoir-faire d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on évoque aussi dans cette partie la, la transmission des savoir-faire et le cas échéant, l'évolution vers de, nouvelles, de nouveaux savoir-faire, de nouveaux artisanats. On n'a pas encore évoqué vraiment l'ébénisterie, par exemple, mais qui est une forme d'artisanat un peu dérivée, en fait, et qui est apparue dans le quartier. Également, par exemple, des métiers d'art moins connus du grand public, mais qui est la scénographie, avec un cabinet de scénographe installé dans le quartier et dans un bâtiment emblématique, patrimonial.
L'atelier des charrons.
Voilà, l'atelier des charrons, dont le nom renvoie au métier des charrons. Voilà, donc cette première partie, elle évoque les savoir-faire tant d'un point de vue historique, mais aussi du point de vue contemporain, voilà, avec ce qui existe encore. Alors, on a entendu M. Tagbalout, qui, au moment où nous avons préparé l'exposition, était encore en activité et qui représentait le dernier représentant de ce métier. Mais voilà, c'était aussi ce que voulait raconter cette première partie.
Là, concernant Tagbalout, il n'y aura pas de transmission, malheureusement.
Effectivement.
Pourtant, il est sur un créneau qui est
tout à fait.
Porteur.
Oui. Après, la deuxième grande partie de l'exposition, nous l'avons appelée « Bâtir », et là, elle revient vraiment sur la formation du quartier, son histoire urbaine, sa trame urbaine. On a parlé au tout début de sa fonction, un petit peu l'évolution de la place du quartier et dans son rapport à la ville-centre, on va dire, de quartier de faubourg à quartier-centre. Et puis, comment petit à petit ce quartier est devenu plutôt un quartier de passage. Nous, on a parlé de transit avec cette fameuse rue Antoine Durafour qui est un axe extrêmement emprunté, pour le coup, par les voitures. Avec la montée en puissance de l'automobile dans les années 1970-1980 et qui occupe beaucoup de place et qui handicape aussi l'identité du quartier.
Il y a l'autre axe. La rue des Francs-Maçons.
Voilà. Et l'autre axe, effectivement, est-ouest, qui croise très la rue du Rafour. Et voilà, donc cette partie évoque comment le quartier apparaît dans la trame urbaine, avec des premiers toponymes très, très discrets, mais on a quand même une chapelle Saint-Roch qui a existé, qui pourtant n'est pas du tout à l'emplacement actuel de l'église Saint-Roch, mais qui était quand même dans le périmètre qui nous intéresse. On a l'évocation du Bavernet, donc en fait on a un certain nombre de noms qui apparaissent dans les cartes de la fin du XVIIIe siècle. Et puis après, le quartier se forme vraiment au XIXe siècle, avec donc nos habitants qui revendiquent la création d'une place, et la construction de l'église qui arrive au milieu du XIXe siècle. Les habitants encore qui se mobilisent à nouveau là pour l'ouverture de rues, pour améliorer les circulations entre le quartier et les quartiers limitrophes du quartier. Donc on voit que petit à petit, le quartier s'incarne à travers aussi ses habitants. Et puis j'évoquais tout à l'heure les travaux qui sont intervenus dans le quartier, en particulier en 1986, les travaux sur la place Saint-Roch, et qui, 30 ans plus tard, donc connaît une nouvelle période de travaux. Voilà pour cette deuxième partie. Et puis enfin, on termine le parcours extérieur avec une partie nommée « Vivre » et qui, là, évoque vraiment les ambiances et la vie du quartier. Alors, qui se traduit à travers ce centre névralgique qui est la place Saint-Roch, son marché qui est une survivance actuellement, mais qui a dû se réinstaller, je pense, depuis que la place est rénovée. Mais aussi la place, par exemple, l'existence, la création du conservatoire au début du XXe siècle, qui est sur les limites du quartier, mais qui a vraiment irrigué la vie musicale du quartier. Et puis on évoque également dans cette dernière partie le rôle des solidarités et de la présence de nombreuses associations actives pour l'aide sociale, pour le soutien aux jeunes, voilà. Et puis donc autour de cette colonne vertébrale de ce parcours extérieur, deux moments forts dans le parcours. D'une part, on a entièrement consacré un espace qu'on appelle le chalet, qui est fermé. On l'a entièrement transformé un petit peu pour évoquer un café comptoir, avec un jeu de mots sur comptoir, le comptoir du café, et comptoir, l'endroit où l'on compte, où l'on raconte. Mmh. Et c'est l'endroit où l'on a choisi de valoriser les témoignages que l'on a collectés et qui ont été montés et mis en forme par deux créateurs sonores qui sont Johan Kost et Charles Dan Dahan. Et donc c'est un lieu dans lequel on invite le visiteur à s'installer, à prendre place et vraiment à pouvoir écouter dans la durée ces témoignages dont on a quelques extraits aujourd'hui, dont on entend quelques extraits aujourd'hui.
Eh bien, merci Juliette pour cette évocation de cette exposition. J'espère que ça va attirer beaucoup les visiteurs. Alors, il a été question de l'évolution, de la transformation de ce quartier, des graves problèmes qu'il rencontre. Je crois qu'il ne faut pas se le cacher. À ma connaissance, le marché n'a pas encore redémarré. Certains commerçants doutent qu'il refasse un jour. Mais entre la nostalgie de certaines personnes âgées qu'on peut entendre, qu'on entendra aussi dans l'exposition, dans l'émission de l'année dernière, et puis une certaine modernité. Alors, tu as parlé du conservatoire. C'est vrai que c'est une institution qui irrigue beaucoup. Moi, j'aurais tendance à parler aussi, alors c'est un axe un peu sud-ouest-nord-est entre le conservatoire. Il y a quand même l'université qui n'est pas très loin. Il y a la bibliothèque universitaire. Le problème, je crois que c'est un problème dont il faudrait qu'on discute maintenant, c'est que finalement, les étudiants viennent peu dans le quartier Saint-Roch. Et comme vous l'avez dit, on le traverse plus qu'on s'y arrête. Or, les gens qui s'y arrêtent, qui vivent, ont vieilli, ils vieillissent. Le problème qui s'est posé à la municipalité, qui est évoqué un peu par Coproc, c'est comment relancer un quartier. C'est un vrai problème, ça. Est-ce que cette transformation de la place va permettre de faire cette relance à elle toute seule, hein? Et
c'est son ambition.
C'est son ambition.
Alors, il n'y a pas de jeunes dans le quartier. Ce n'est pas tout à fait exact. Ils y vivent. Il y a pas mal d'étudiants qui vivent dans le quartier. Les enquêtes montrent, comme les logements sont assez petits, il y a peu de grands logements dans le quartier. Ce quartier est habité par beaucoup de personnes seules, soit des personnes âgées, soit des étudiants. Alors, ils y vivent, mais ils n'ont pas une vie. Ils ont pas, c'est pas leur lieu de sociabilité. Et
À la preuve, c'est que les cafés ont pratiquement disparu.
Ben voilà, c'est ce que j'allais dire.
Alors que sur la place, il y en avait 4 ou 5, rien que sur la place, oui. Sans parler de ceux qui étaient dans la rue,
oui,
du Rafour.
Oui, ouais, tout à fait. Alors, effectivement, les travaux qui viennent d'être réalisés ont pour ambition quand même de redonner à cette place un caractère plus convivial. Il y a du mobilier qui a été installé, il n'y en avait plus du tout. Mmh. Voilà, donc dorénavant, on peut s'y asseoir. Il y a des places de parking qui ont été enlevées pour que la place redevienne le lieu où l'on peut circuler en toute sécurité. Donc voilà, ces aménagements, on peut espérer une autre occupation de l'espace. Et puis, il y a aussi des lieux, je reviens à l'atelier des Charrons, qui est donc un lieu de conception, mais qui est intégré dans un bâtiment qui est vaste. Et à l'occasion, ce lieu héberge des expositions, héberge des manifestations. Il y a 2 ans, lors du week-end du jardin...
De l'agriculture durable.
Voilà, de l'agriculture durable, merci. Il était prévu un repas place Saint-Roch. Il faisait un temps épouvantable. Les ateliers des Charrons ont ouvert leurs portes et les gens sont venus manger. D'accord. Donc, il faut peut-être laisser sa chance au quartier, lui donner le temps de se réinventer, d'inventer d'autres lieux de sociabilité.
Bon. On a des témoignages. Juliette, tu nous présentes un témoignage sur le ressenti actuel, c'est ça ?
Alors, on peut écouter Pascal Kir, qui est un éducateur de rue, en fait, dans une association qui s'appelle la NEF, et voilà, qui nous raconte, qui nous a raconté son parcours, son arrivée dans le quartier. Et voilà, à travers son témoignage, il évoque vraiment son ressenti. Il le dit d'ailleurs, hein, lui, vraiment en tant que témoin de la rue.
Entretien numéro 10, Monsieur Kir, éducateur à la nef.
Alors moi, bien évidemment, le regard j'en ai, c'est un regard d'éduc qui est très parcellaire. C'est à travers les jeunes, en fait, que j'ai vécu le quartier. Donc quand je suis arrivé, moi, sur le quartier, c'était en 89, on rencontrait des jeunes qui étaient essentiellement du haut de la rue Antoine Durafour et de la rue Tréfilerie, qui à l'époque n'était pas encore le campus comme aujourd'hui. Voilà, avec un habitat qui était très dégradé à l'époque, bah forcément, hein, c'était des vieilles maisons, et les gens vivaient dans des conditions assez miséreuses. Et moi, le souvenir que j'en ai, c'est d'avoir été dans une famille où, par terre, c'était encore de la terre battue. J'ai rencontré ça aussi, rue de la Mulatière, des très vieux appartements, où je me demandais où est-ce que j'étais tombé, quand même, comme quartier, quoi. C'était des familles très pauvres, hein, parce qu'effectivement, quand ça travaillait pas forcément tout le temps. Ouais, c'est ça. Les mamans étaient à la maison. Donc, nous, on côtoyait essentiellement des familles d'origine maghrébine et turque. Nous, on a eu des générations d'ados ici où on avait que des Marocains. Après, on avait des Algériens ou des Tunisiens. Le mélange se faisait pas forcément systématiquement, quoi. Au niveau de la géographie, ça a évolué. Alors après, on est passé des jeunes de la rue Tréfilerie aux jeunes de la rue Antoine Durafour. Des jeunes de la rue Antoine Durafour, on a passé aux jeunes de la rue de la Mulatière. Et pour arriver, finalement, aux jeunes de la rue du Vernet, qui sont pour la plupart sur la place Saint-Roch. Du coup, j'ai l'impression d'avoir fait un peu toutes les rues du quartier, les unes après les autres, selon les périodes. Mais c'est vrai qu'on s'est, comme on fait pas mal de boulot de rue, on s'est baladé un peu. Enfin, les points de rencontre des jeunes étaient assez dispersés au fil des années, quoi. À savoir que nous, les jeunes, viennent beaucoup au local aussi. Donc le local a été très fédérateur des groupes de jeunes. On avait très souvent une vingtaine de jeunes qui venaient dans le local. Donc tous ces jeunes-là n'étaient pas dehors. Et ils étaient là 5 jours par semaine, quoi. Donc nous, ça s'est un peu estompé. On a essayé aussi, au niveau des accueils, de moins les rapprocher parce que bah, ça devenait ingérable. Les gamins étant de plus en plus compliqués, on n'arrivait plus à gérer les lieux, à tenir la barre, quoi, comme on dit. Hein. On se faisait envahir et on se faisait déborder. Donc ça a été un choix de l'équipe à un moment donné de dire, bah, au lieu d'ouvrir 5 jours par semaine, on n'ouvre plus que 4. Et aujourd'hui, on ouvre grosso modo 3 jours par semaine en accueil informel. Et les autres jours, c'est des choses un peu plus organisées qui se mettent en place, quoi. Alors, je pense qu'à l'époque, il y avait moins de jeunes dans la rue. Il me semble que c'est assez récent qu'il y ait autant de gamins dans la rue. Les groupes de vieux, il y en a toujours eu. Bon, ils descendaient fumer leur clope, leur chichon dehors, tranquille, tu vois. Du coup, ça faisait des groupes moins importants. Tu avais des groupes de 4, 5, peut-être une dizaine de jeunes, mais encore, je ne suis même pas sûr.
Alors, les témoignages qui nous montrent que Saint-Roch, est, alors ça mériterait peut-être une émission à soi tout seul, est devenu finalement assez récemment un quartier d'immigration. C'était pas un quartier d'immigration, c'était plutôt du côté de Tarentaise ou de Montréno que les immigrés s'installaient. Donc, c'est un quartier d'immigration, ce qui n'est pas sans expliquer certaines tensions entre les plus vieux et les plus jeunes. Ce serait l'occasion de revenir à une autre, lors d'une autre émission. Alors, pour finir, cette exposition, elle va quand même avoir une pérennité quelque part. Juliette.
Alors, effectivement, donc l'exposition visible aux archives municipales, c'est jusqu'au 30 septembre, du lundi au vendredi. Mais on avait décidé dès le départ que cette exposition, elle avait du sens aussi si on pouvait la présenter au cœur du quartier. Donc en l'occurrence sur la place Saint-Roch. Ça, on l'avait décidé dès la conception de l'exposition. Donc elle a été un petit peu prolongée, comme vous le savez, de quelques mois. On a prévu de présenter du coup quelques éléments de l'exposition sur la place Saint-Roch à partir de demain, vendredi 18 septembre. Donc ces panneaux temporaires seront présentés jusqu'au 30 octobre sur la place. Ils se présentent en fait, il y a, ils sont, il y a trois supports et ce sont six panneaux recto-verso. Et ces six panneaux permettent de reprendre chacune des parties de l'exposition. Donc on a choisi quelques photographies représentatives. Quelques textes aussi, ce sont les textes de l'exposition, donc on retrouve les mêmes contenus que dans l'exposition, mais en plus court. Et en particulier, pour chacune des trois parties, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, on avait sollicité un regard extérieur en forme de perspective, c'est-à-dire donner une perspective à la thématique, enfin au sujet. Donc ces trois textes en fait sont également présentés sous une forme un peu raccourcie, mais on redonne la parole en fait à ces trois regards. Donc le premier étant celui de Brigitte Carrier-Reynaud, qui est historienne et qui évoque la patrimonialisation du quartier. Le deuxième, sur la question de l'urbanisme, on a donné la parole au collectif Coproc. Mmh. Et enfin, sur la question de la vie du quartier, là, on a fait un dialogue croisé entre les deux représentants des deux structures sociales que Catherine a évoquées tout à l'heure. D'une part, l'annexe du centre social de la Vivarèse, avec sa responsable Isabelle Bergeau, et puis Philippe Chastel, qui est le directeur de l'espace Boris Vian, qui ont joué au jeu des questions-réponses sur l'avenir du quartier, la place de ce quartier dans la ville et leur rapport aux habitants. Voilà, donc on a vraiment choisi aussi de garder ces trois regards sur le quartier pour les donner à partager avec les usagers de la place, ceux qui la traversent, ceux qui la fréquentent quotidiennement. Et ça, c'est possible à partir de demain et jusqu'au 30 octobre.
Très bien, il y a une cérémonie particulière ou bien ça se pose comme ça
On l'installe demain matin pour D'accord. ceux qui nous verront. Voilà.
Bon, écoutez, dire au public stéphanois que c'est une bonne occasion de s'arrêter, éventuellement de faire des courses dans les commerces du quartier pour voir ces panneaux de l'exposition. Alors, je vous remercie, Catherine et Juliette, de cette présentation de cette exposition. Donc Saint-Roch, un quartier en chantier, c'était ça l'appellation ?
Son titre, c'était voilà. En chantier, mais Saint-Roch en mutation.
Voilà. Mutation. Et qui donc se termine malheureusement le 30 septembre, mais dont on pourra voir quelques échos dans ces panneaux que vous venez de présenter, Juliette. Je termine très rapidement par l'agenda, si j'ai encore quelques secondes. Donc tout d'abord pour dire que la deuxième journée des rencontres d'histoire ouvrière du Grémos qui a été suspendu le 24 janvier, non pas pour cause de Covid, mais pour cause de grève. On a déjà oublié qu'il y avait une grève nationale à ce moment-là. Eh bien, elle était reportée normalement au 16 novembre, mais pour cause de Covid, on ne sait pas quand elle aura lieu. Cela dit, nous préparons l'édition des interventions de la première journée et nous tiendrons le public au courant. Je voulais juste mentionner l'apparition, la diffusion récente, je crois que ça date d'hier, du programme de l'association de philosophie Aussitôt-dit, qui vient régulièrement sur ses antennes, et notamment très prochainement le 14 octobre 2020, par Jean-Louis Fournel, professeur à l'Université Paris 8, et Jean-Claude Zancarini, professeur émérite de l'École normale supérieure de Lyon, qui sont deux personnes très attachées à Saint-Étienne, de la présentation de leur livre Machiavel, une vie en guerre. Donc ça a lieu à l'Hôtel de Ville. Et puis la suite du programme, nous la présenterons au fur et à mesure. Voilà, je vous remercie, mesdames, Loïc, et je remercie tous les auditeurs pour leur attention.
Et on se retrouve le mois prochain pour la prochaine émission du Grémos.
C'est ça. Bon.